Michel Poitevin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Bonjour.
Bonjour, Hélène.
Beaucoup de pain sur votre planche économique, Michel. D'abord, on en parle depuis hier, là, quand on a su que Christopher Freeland avait remis sa démission. Le gouvernement fédéral a fait une mise à jour économique hier sans sa ministre des Finances.
Mais oui, ça brasse à Ottawa. On pourra reparler de Mme Freeland, mais juste nous donner les chiffres. Donc, il y a eu une mise à jour, effectivement, économique. C'est le moment où le gouvernement met à jour ses chiffres sur les déficits anticipés et passés, parce que des fois, il y a des révisions sur les chiffres passés, puis il y en a eu une hier assez importante. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le déficit pour l'exercice terminé en mars dernier, donc... Et de 62 milliards, ce qui est à peu près 22 milliards de plus que promis par la ministre lors de sa dernière mise à jour. Pourquoi on a un si grand écart? Mais il y a eu des règlements avec les Premières Nations, donc les peuples autochtones, puis aussi des dépenses reliées à la COVID là, qui n'avaient peut-être pas été complètement anticipées ou comptabilisées. Puis ça fait gonfler le déficit à 62 milliards, ce qui est énorme. Et puis là, on fait des projections pour le futur. On est déjà dans le nouvel exercice 24-25, là, de avril à fin mars. On anticipe 48 milliards de déficit au lieu de 39, donc 9 milliards de plus que ce qu'on avait prévu. Et puis là-dessus, il y a 1,3 milliard de nouvelles dépenses sur 5 ans, donc pas juste sur un an, là, sur 5 ans pour sécuriser les frontières. Puis ça, c'est en réponse à la menace de M. Trump d'imposer des tarifs au Canada si on ne règle pas, entre autres, les problèmes aux frontières d'immigration illégale et d'importation illégale de fentanyl ou autres substances illicites. Ensuite, dans les prochaines années, le déficit va baisser un peu, mais probablement pas assez vite au goût de Mme Freeland. Plusieurs affirment là, ce matin que le fédéral semble avoir perdu le contrôle de ses dépenses publiques. Quand M. Trudeau est arrivé au pouvoir, le ratio de la dette, donc la dette accumulée du gouvernement fédéral sur le PNB, donc la valeur, donc la taille de l'économie, là, ce qu'on produit, était entre 50 et 55 %. Il va être à 70 %. Donc, c'est quand même une énorme. C'est pire dans plusieurs autres pays, mais quand même, on avait une rigueur budgétaire là qui est un peu passée par les fenêtres. On a l'impression depuis 2015 ou 16, depuis que M. Trudeau est au pouvoir, le déficit est à plus de 11 % des dépenses. Alors, si... Sinon, on était des consommateurs, puis à chaque année, on dépensait 10 % de plus que nos revenus. On ferait faillite, ce serait pas long. C'est normal que dans certaines périodes, le gouvernement fasse des déficits. Et pourquoi? Mais quand l'économie va mal, c'est un peu le rôle du gouvernement d'aider les gens qui sont dans le besoin. Là, supposons que le chômage est élevé, il y a beaucoup de personnes sur le bien-être social. Ça serait plus du côté provincial, l'aide aux familles, etc. Mais on s'attend à ce que quand l'économie aille bien, on fasse pas trop de déficit ou même des surplus, ce qui est déjà arrivé dans le passé, et que sur un horizon de 5 à 10 ans, tout ça s'équilibre à peu près. Depuis que M. Trudeau a pris le pouvoir, il n'a jamais fait de surplus. On a toujours été en déficit. Puis ça, même avant les années COVID, là, donc avant 2020, où l'économie canadienne allait bien, puis on dépensait beaucoup, puis on créait des déficits. Puis c'est là qu'on paye quand ça va mal. Pendant la COVID, on s'en attend, là, puis tous les pays du monde ont fait la même chose. On a dépensé énormément, à raison. À ce moment-là, là, les économies allaient vraiment mal, tout était fermé. On s'en souviendra tristement. Mais depuis, on dirait que le gouvernement n'a pas réussi à fermer le robinet ou arrêter la spirale déficitaire. Là. Depuis 2 ans, l'économie va un peu mieux. Il y a eu l'inflation, mais là, l'inflation est comme assez bien contrôlée. Là, on est autour en 2-2,5 %, mais on fait encore des gros déficits, puis on anticipe des gros déficits dans les 3 ou 4 prochaines années à venir. Puis ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'a pas l'impression que ça va s'améliorer beaucoup. Là, si Trump impose des tarifs, ça risque de créer une récession. On a vu, je pense que c'est la semaine dernière, on a parlé des derniers chiffres du chômage qui est légèrement à la hausse au Canada. C'est là qu'on va avoir besoin d'argent pour aider les gens dans le besoin, mais j'ai l'impression que la situation financière ou budgétaire aidera pas. Puis certainement qu'électoralement, M. Trudeau doit sentir la soupe chaude avec ce qui se passe.
Ouais, est-ce que c'est pour ça que Chrystia Freeland a démissionné?
Ben, on pense que oui, là, certainement en partie. Je pense que Mme Freeland est plus responsable budgétairement que M. Trudeau. Puis il devait avoir un conflit qui couvait entre les deux. Et puis M. Trudeau, je pense que c'est dimanche soir qu'il a annoncé que de muter Mme Freeland à un autre poste au sein du cabinet. Là. Donc lui a ôté le ministère des Finances. Puis elle, je pense qu'elle a vu ça comme un vote de non-confiance, puis elle a décidé de quitter le cabinet. Certainement que le congé de TPS qui avait été annoncé par le premier ministre là, pour les sapins de Noël et autres, c'était peut-être pas la décision du siècle là, dans une période où on a des gros déficits budgétaires. Là. C'était comme une goutte d'eau, ça n'aidera pas l'économie. Et même Mme Freeland a mentionné dans sa lettre de démission qu'elle appelait ça des astuces politiques coûteuses. Donc,
ouais.
Donc elle disait c'est vraiment pour des motifs politiques que ça a été fait plutôt qu'économique. Donc, ça a peut-être été la goutte d'eau que Mme Freeland a démissionné du cabinet, mais pas du Parti libéral. Puis je pense qu'elle s'est engagée à se représenter aux prochaines élections.
Mais vous avez raison, c'est écrit dans le Devoir. Là. Elle entend se présenter comme députée libérale dans sa circonscription de University Rosedale à Toronto. Et lui avait offert, paraît-il, selon le Devoir, un poste de ministre pour gérer les relations canado-américaines. Et il voulait recruter l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, mais finalement, c'est Dominique Leblanc qui va remplacer Mme Freeland aux finances.
Oui, M. Dominique Leblanc, qui est ministre de la Sécurité publique, il va cumuler les deux postes. Je pense qu'il y en a aussi un autre petit ministère, je pense que c'est Relations interprovinciales qu'il a également. Donc, il va cumuler pour le moment. M. Carney, c'est ça, j'ai pas vu, mais ça fait longtemps que son nom est mentionné, puis qu'il y a peut-être des visées pour devenir premier ministre du Canada, ou au moins chef du Parti libéral, puis on verra si les électeurs veulent de lui.
Ouais.
Mais il a peut-être pas voulu s'embarquer, là, parce que là, on a l'impression que le Parti libéral, là, ça...
Il attend que Justin tombe,
action,
Justin
sa
Trudeau.
Sa cote politique vaut pas beaucoup. Alors donc, embarquer dans un navire qui coule, c'est peut-être pas le meilleur moment. Alors, il a peut-être préféré attendre, laisser couler le navire, puis qu'il reviendra après, à suivre. On verra bien. Là.
Oui, oui. Mais c'est parce qu'on parle de plus en plus là, du départ, parce que même l'équipe de Justin Trudeau, pas toute l'équipe nécessairement, là, mais il y a certains membres de son équipe qui disent haut et fort que ce n'est plus l'homme de la situation. Et
oui.
Si Mark Carney a des intérêts pour être le chef du Parti libéral, peut-être qu'il s'est dit « je vais attendre que ça se passe ».
C'est ça, mais en même temps, à court terme, parce qu'il y a beaucoup, comme vous le dites, de bisbilles là, dans le Parti libéral, puis je pense que même avec la démission de Mme Freeland, ça va amplifier tout ce mouvement de bisbilles. Et puis là, même si M. Trudeau démissionnait, est-ce que M. Carney, politiquement, est-ce que ça serait une bonne décision à prendre si lui entrevoit que les libéraux, ils rentrent dans un mur puis qu'il n'y aura rien pour les faire élire aux prochaines élections? Est-ce qu'il va vouloir attendre après? C'est ça qu'on ne sait pas. Là. Il doit mijoter toutes ces choses-là. Je pense que c'est quelqu'un qui a été gouverneur de la Banque du Canada, puis assez de façon exceptionnelle aussi, a été gouverneur de la Banque d'Angleterre. Donc, c'est rare qu'un étranger est gouverneur d'une banque dans son lui a été dans un autre pays en Angleterre. Puis je pense pour ces deux postes-là, il a fait du bon travail, il a une excellente réputation. Ça pourrait faire un bon chef pour le Parti libéral, mais est-ce que sa nomination éventuelle serait suffisante pour que les gens votent pour lui plutôt que M. Poilievre, là, puis on fait de la spéculation. Là,
on verra bien.
Élection, c'est
sinon, on ne spécule pas, là, c'est officiel, retour au travail pour Poste Canada. Retour au travail forcé.
Oui, forcé. Donc, le conflit n'est pas réglé, là, mais le gouvernement dit que c'est assez pour rentrer au travail.
Après presque un mois.
Oui, ça va faire du bien.
Oui. Et puis, Lyon électrique, l'un des symboles de l'électrification des transports du Québec est dans un cul-de-sac. On peut lire ça dans la presse d'aujourd'hui, mais ailleurs aussi, là.
Mm-hmm. Oui, ben on en avait parlé, je pense, la semaine dernière de Lyon électrique. Et puis, finalement, ils ont décidé de se mettre sous la protection de la loi de la faillite. Peut-être pour trouver soit de nouveaux créanciers ou de nouveaux actionnaires pour relancer la compagnie. Ils ont un bon produit. Je pense qu'il y a différents facteurs conjoncturels qui n'ont pas aidé. Donc, ça serait dommage que la compagnie ferme définitivement. Mais puis je pense qu'à Lyon, on espère que ça va continuer. Mais en se mettant sous protection de la loi sur la faillite, ben on précipite pas la faillite, justement, paradoxalement, parce que les créanciers, c'est comme si on dit, ben là, attendez un peu, on va essayer de se restructurer puis voir si on peut faire quelque chose.
Alors, vous pensez, bien évidemment, là, que quand on apprend ce genre de nouvelles-là, on sait que c'est pas tout le monde qui va passer de très joyeuses fêtes.
Non, c'est ça. Et, ben, les postiers vont, je sais pas si ils n'auront sûrement pas un chèque de paye avant les fêtes, mais ils recommencent à travailler un petit peu, mais le conflit n'est pas réglé. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres grèves dans la nouvelle année? On verra.
Est-ce que les cartes de Noël vont arriver à temps cette année? Pour ceux et celles qui en envoient encore?
Moi, c'est ça, il faut miser sur l'électronique, je pense.
Merci beaucoup, Michel. Je vous souhaite un joyeux Noël, puis à bientôt.
Très joyeuses fêtes à vous aussi, puis merci. On se revoit, on se reparle en début janvier.
Oui, on se revoit. Vous avez dit on se revoit, ça veut dire que vous allez venir en studio.
Bien, on va essayer.
Hein. OK, le 7 janvier. une résolution de venir au moins une fois en 2025.
Je dis pas non.
À bientôt, Michel.
À bientôt, au revoir.